France Inter. Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9.
Et avec Léa Salamé, nous vous proposons aujourd'hui un grand entretien en forme de table ronde sur cette étrange campagne présidentielle qui, à 46 jours du premier tour, reste à l'état gazeux et semble ne toujours pas avoir démarré.
Oui, c'est vrai qu'on s'est rarement retrouvé dans une situation où le président de la République n'est toujours pas candidat à 46 jours du premier tour, où il n'y a pas de grand débat à la télévision entre les différents prétendants et surtout où les Français semblent se désintéresser de ce qui est pourtant l'élection majeure de notre vie politique.
Et pour en parler ce matin, trois invités, donc le philosophe Pierre-Henri Tavoyot, Sorbonne Université, président du Collège de Philosophie, bonjour.
Bonjour.
Raphaël Yorca, bonjour.
Bonjour.
Communicant, expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Et Brice Teinturier, bonjour.
Bonjour.
Directeur général délégué de l'Institut de Sondage Ipsos. Question simple pour commencer, Brice Teinturier, question au pluriel. À 46 jours du premier tour, où est la fameuse cristallisation de l'opinion dont on parle à chaque présidentielle quand les choix commencent à s'affirmer, à se consolider? Pourquoi cette campagne n'en finit-elle pas de ne pas démarrer? Bref, qu'est pas ça? Qu'est-ce qui se passe?
Alors d'abord, il n'y a pas de cristallisation, ça c'est tout à fait clair, et il ne peut pas y avoir de cristallisation tant que le système de candidature n'est pas totalement calé. Donc nous sommes toujours en attente de la candidature, même si ce n'est pas un mystère, d'Emmanuel Macron, mais surtout, au-delà de cette candidature, de ce qu'il va annoncer pour qu'il y ait une controverse qui progressivement se mette en place. L'autre élément qui joue beaucoup, que nous voyons dans nos enquêtes, en dehors des facteurs exogènes comme le Covid, la fatigue, la difficulté à capter l'attention des Français, c'est le manque de clarté pour les Français de cette campagne. Ce qu'ils nous remontent dans des études qualitatives, dans toute une série d'indicateurs, c'est que la scène est confuse. Elle est confuse parce que les candidats ne sont pas tous là. Elle est confuse parce que les visions sont faibles, et qu'ils ont l'impression d'avoir un catalogue de mesures, mais des mesures un peu déjà entendues. Et puis elle est confuse, et on le voit bien cette fois-ci, parce que le clivage gauche-droite qui permettait d'ordonner, de créer des repères, eh bien il s'est affaibli. Mmh. Et donc il y a une espèce de d'éloignement, de difficulté pour les Français à rentrer dans cette campagne. Derrière cela, moi je pense que l'enjeu majeur, c'est est-ce qu'il existe toujours un espace délibératif commun? Et c'est ça le cœur du sujet,
et
beaucoup plus que... Moi je crains qu'il ne soit très abîmé. Ce qu'on voit bien, c'est que la démocratie libérale, elle repose sur cette idée qu'il y a un public et un espace délibératif commun. Et que des Français, donc, regardent une controverse se mettre en place, regardent des candidats s'affronter. C'est mort ou c'est quasiment mort. Dans tous les cas, ce qu'on va voir, c'est si les débats permettent de réactiver cela. Parce que ce que je mesure bien, c'est une extrême fragmentation des Français, où chacun est dans son couloir. Et du coup... La moyenne, d'ailleurs, que nous recueillons par sondage, souvent n'a pas de sens, tellement, quand vous regardez les choses, électorat par électorat, eh bien, elles sont différenciées, fragmentées, chacun reste dans son couloir, ouais. Et du coup, il n'y a pas cet espace commun, et seuls les débats, peut-être, permettront de le réactiver.
La mort de l'espace délibératif, c'est ce que vous dites,
abîmé.
En tout cas, très abîmé. Pierre-Henri Tavoyot, cette situation est-elle à vos yeux conjoncturelle, liée, par exemple, à la pandémie, qui nous aurait un petit peu anesthésié, ou voyez-vous un phénomène plus profond fond de fatigue démocratique qui aurait atteint de manière structurelle la France?
Je pense qu'il y a plusieurs niveaux. D'abord, prenons un petit peu de recul. C'est en général, toutes les campagnes déçoivent. Donc, revenez dans l'historique. On est toujours déçu dans les campagnes.
Ah, pas la dernière.
Non, non, non. Et pourquoi? La dernière, c'était pas les débats. La dernière, c'était les péripéties qui passionnaient.
Les coups de théâtre.
Oui, les coups de théâtre. Mais c'est très différent de parler de coups de théâtre ou de délibération politique. On est dans un autre registre. Donc, c'est vrai qu'on sortait d'une campagne qui était très, très, passionnante, genre Netflix. La déception sur les idées était la même. D'ailleurs, c'est au dictionnaire des idées reçues, campagne électorale, on ne parle pas des questions qui concernent les Français. Voilà. Ça, vous pouvez remonter. C'est présent depuis toujours. Alors, associé à ça, il y a un deuxième point, c'est le fait que nous sommes effectivement dans une période de crise. Les crises sont favorables, assez peu favorables aux élections et favorables à la gestion politique. Parce que dans une crise politique, et paradoxalement, les démocraties sont plus gérables dans les situations de crise parce que les priorités qui font l'objet d'un débat délibératif apparaissent plus clairement. Covid, il faut en sortir. Ukraine, il faut trouver une solution. Donc ça donne la main, si je puis dire, aux élus et aux responsables politiques. Troisième dimension, c'est une démonétisation du vote. Ça, c'est un phénomène de crise beaucoup plus long. C'est aujourd'hui un citoyen considère qu'on est beaucoup plus actif en faisant autre chose que voter. On fait des coups médiatiques, on fait de la résistance passive, on fait des grosses manifs. Ça marche beaucoup mieux pour influencer l'action politique.
Ça veut dire que vous craignez une grosse abstention ?
Oui, c'est possible, parce qu'on voit très bien voilà, que si on veut vraiment influencer l'action politique, ça marche. Et un quatrième élément, c'est effectivement l'âge des idéologies faibles. C'est-à-dire qu'on... les campagnes du passé, les clivages étaient identifiés, clairs, c'était des tuyaux, en effet, et dont nous sommes passés à des idéologies faibles qui s'affrontent avec une exigence de cohérence très faible. On peut dire une chose et exactement son contraire juste après. Et ça, c'est évidemment problématique pour la délibération.
Raphaël Iorca, cette campagne, pour vous, vous la décrivez comme virtuelle. Vous dites qu'elle ne se passe nulle part. Et vous voyez, par exemple, dans la question de la difficulté de certains candidats à recueillir les 500 parrainages, un problème de rapport au réel pour les élus censés les donner. Que voulez-vous dire par là ?
Je crois qu'effectivement, cette campagne est le lieu d'une sécession avec le réel. C'est-à-dire que non seulement on voit qu'il y a des thèmes qui sont surreprésentés dans le débat public, on voit bien la capacité de l'extrême droite à imposer les thèmes de l'identité, de l'immigration, et en même temps d'autres thèmes qui sont très importants dans les préoccupations des Français, je pense à l'environnement, je pense à l'avenir du système de santé, sont complètement absent de ce débat-là. Donc il y a une sécession du réel, et je rebondis sur ce que disait Brice Tintuet tout à l'heure, on a des campagnes en bulle. C'est qu'effectivement, on a des candidats qui parlent d'écologie, on a des candidats qui parlent... Mais ils n'arrivent pas à infléchir sur ce réel-là. Moi, c'est ça qui me frappe.
Pourquoi ?
Je crois qu'au fond, et en creux, c'est ce que nous montre l'extrême droite, c'est que l'extrême droite a réussi à travailler tout ça. C'est qu'au fond, ils ont travaillé sur leur logiciel de pensée, qu'ils ont réactualisé et remis au goût du jour. Ils ont travaillé sur la langue, en nous mettant dans la bouche leurs mots, leur vocabulaire, leur expression. Ils ont travaillé aussi leur style, en reprenant des codes d'aujourd'hui, la culture populaire, la culture internet, le cool même. Et je crois que tout ce travail-là, on entend souvent cette petite musique de l'irrésistible ascension de l'extrême droite. Mais au fond, il y a une part de construit. C'est que tout ça, le fait qu'il y ait une droitisation des débats, c'est pas simplement une loi de l'histoire, comme on l'entend parfois. C'est aussi le fruit de quelque chose de construit patiemment. Et je crois que c'est ça qu'il faut souligner aussi.
Vous en pensez quoi, Pierre Travaillot?
Je trouve que c'est une vision un petit peu délicate, parce que on peut aussi avoir l'hypothèse, peut-être moins coûteuse, que effectivement, la France est plutôt à droite, que les problèmes concernés sont des problèmes réels. Je veux dire, les territoires perdus de la République, c'est pas quelque chose qui est absolument inexistant. Et que quand on regarde les préoccupations des Français, ça arrive plutôt en tête. Donc, vous avez une manière de présenter une coupure à l'égard du réel. C'est peut-être votre réel, mais c'est peut-être pas le réel.
Mm-hmm. Raphaël Iorca.
Écoutez, moi, je suis pas le sondeur dans la pièce, mais il me semble que la préoccupation numéro un, c'est le pouvoir d'achat. Numéro deux, c'est plutôt le système de santé. Numéro trois, c'est l'environnement. Donc, on voit bien qu'effectivement, mais ce rapport au réel est intéressant parce que l'extrême droite le travaille énormément. Ça, on le voit, c'est de plus en plus documenté, y compris sur leur stratégie sur les réseaux sociaux, où ils donnent le sentiment d'être à la fois majoritaires alors qu'ils sont minoritaires, y compris en retravaillant des pages Wikipédia. Le livre de Vincent Bresson, Au cœur du Z, celui qui s'est infiltré dans les équipes Wikipédia, en montrait qu'il y avait une réécriture en temps réel de ce réel-là. Donc vous voyez, il y a quand même un certain nombre de faits construits qui expliquent aussi, indépendamment des thèmes prégnants, la puissance de l'extrême droite aujourd'hui.
Qu'en pensez-vous ? Vous êtes le juge de paix, Brice Tinturier, sur cette controverse.
Je pense que sur la question de l'extrême droite, il y a une visibilité accrue de l'extrême droite, mais notamment à travers Éric Zemmour et à travers un certain nombre de thèmes qui sont poussés, dont on voit bien qu'ils se répandent effectivement en termes de sémantique dans le débat public. Mais quand vous regardez d'autres indicateurs, que ce soit donc les priorités, que ce soit aussi l'autopositionnement des Français sur une échelle gauche-droite, eh bien vous avez 11% de Français qui se situent sur les cases les plus extrêmes à droite, 9 et 10, aujourd'hui. C'était la même chose il y a 2 ans, donc bien avant la percée d'Éric Zemmour. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des constantes et qu'il peut y avoir évidemment le sentiment que tout cela augmente, explose, mais la réalité est plus nuancée. Elle est plus nuancée sur les comportements électoraux des Français, elle est plus nuancée sur le rapport aux préoccupations, qui ne sont pas que des préoccupations tenues par l'extrême droite. Et j'en reviens ensuite au couloir. C'est-à-dire qu'effectivement, les électeurs d'Éric Zemmour, puisqu'on parle d'extrême droite, vous disent à 87%, beaucoup plus d'ailleurs que ceux de Marine Le Pen, que la crise fondamentale, c'est la crise identitaire. Chez Marine Le Pen, ils se partagent en deux blocs équivalents.
Il y a
la crise identitaire, il y a la question sociale, économique et sociale, et le pouvoir d'achat.
Emmanuel Macron a été élu en 2017 sur le dépassement des partis, des clivages anciens, de la politique. On parlait de Startup Nation, de la promesse d'un nouveau monde, ce qui n'avait rien à voir avec la politique classique. Sommes-nous entrés dans ce qu'on pourrait appeler un monde post-politique, Pierre-Henri Tavoyau?
Non, pas post-politique, parce que la passion pour la politique reste présente, hein, je veux dire, à tous les niveaux de génération. Simplement, c'est plus une politique qui trouve les formes adéquates. Dans l'histoire des démocraties, le grand problème, c'est de faire en sorte que le peuple s'intègre aux institutions et participe en quelque façon aux institutions. Il y a eu trois méthodes pour y parvenir. Il y a une première méthode très très efficace qui s'appelle le clientélisme. Pour faire voter les gens, on achetait les voix, hein, ça marchait très bien.
Bon,
on n'a plus le droit de le faire. Bon, mais ça marchait très bien. Deuxième méthode qui était le parti. Le parti, c'était l'idée qu'on construisait une société bis, et dans cette société bis, on faisait tout, on se mariait, on partait en vacances, et cette société bis avait pour vocation, dans un deuxième temps, de remplacer la société. C'était le parti communiste, toujours imité, mais jamais véritablement fidèle à... Et puis on est dans une troisième phase. Et cette phase est très incertaine. C'est l'âge des mouvements. Alors mouvement, ça veut dire une coagulation ponctuelle dans une conquête électorale. Alors ça a été Mélenchon sous la forme de la coopérative, ça a été Macron sous la forme de la start-up. Et simplement, c'est très difficile à faire vivre parce que...
Mais ça construit quelque chose ou pas?
C'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire que ça construit un engagement ponctuel qui fonctionne effectivement dans des logiques électorales. Alors est-ce que c'est en train de mordre? C'est peu probable. Ça mord un peu chez Zemmour, hein, incontestablement, mais ça mord pas tellement ailleurs. Et puis, du coup, c'est déconnecté, effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, d'une idéologie claire, c'est-à-dire d'une vision du monde. On voit très bien que, chez Mélenchon d'ailleurs, comme chez Macron, qui peut décrire véritablement les ressorts idéologiques qui peuvent aller, en fonction des circonstances, de ce côté, de l'autre. Et donc, c'est très incertain. Donc, du coup, effectivement, on manque de visibilité.
Brice, toi, Ferrier.
Je pense que c'est tout simplement l'explosion des communautés. Ce que nous vivons, c'est des communautés, ce sont des communautés ponctuelles, où un certain nombre de citoyens se rejoignent ponctuellement autour d'un thème commun, autour aussi d'une sociologie qui peut être commune, mais c'est tout à fait différent de ce qu'on avait avec les partis politiques et avec la démocratie traditionnelle. Et c'est pour ça qu'on a cette juxtaposition de communautés ponctuelles, souples, lâches, et cette impression d'un État un peu gazeux où rien n'accroche.
Raphaël Yorca.
Je crois qu'il y a un élément sur lequel on n'insiste pas assez, c'est le changement de registre émotionnel dominant. C'est qu'il me semble que les deux précédentes campagnes étaient plutôt sur un registre de dégagisme, d'insatisfaction. Aujourd'hui, ce qui prédomine, c'est la fatigue. J'y reviens parce que je pense que c'est très important. La fatigue,
et la haine. Il y a la aussi une dimension.
Oui,
de
mais
haine,
en numéro un, vraiment, dans ce qui caractérise l'état d'esprit des Français, c'est d'abord et avant tout la fatigue. Ce qui s'explique après une société pandémique, mais dans une crise pandémique. Il me semble que les candidats n'ont pas assez intériorisé cette notion de fatigue. Sauf, précisément, j'y reviens, l'extrême droite. Il me semble qu'ils ont intériorisé et instrumentalisé cette question de la fatigue pour faire avancer leur radicalité. Deux stratégies très différentes. Marine Le Pen, c'est plutôt la stratégie du somnifère. C'est qu'au fond, à force d'amollir sa forme, à force de faire des concessions sur le programmatique, elle cherche à endormir le Front républicain dans un éventuel second tour. À l'inverse, Éric Zemmour, c'est un autre registre de fatigue, d'instrumentalisation de la fatigue, c'est la stratégie du burn-out. C'est qu'au fond, ce rouleau compresseur qui arrive dans une société complètement amorphe, eh bien là, elle a une vocation. C'est qu'au fond, quand on agresse une société qui est fatiguée, soit elle s'agace, soit elle craque. Et je crois que c'est son pari.
Mais pour essayer de comprendre aussi cette fatigue démocratique, ce désintérêt des Français, est-ce qu'il n'y a pas aussi la question, vous parliez de la faiblesse des idéologies, mais aussi la faiblesse d'une certaine manière des incarnations et de ce qu'elles disent. Oui. Vous connaissez, je vais la ressortir, la phrase de Mitterrand, après moi il n'y aura que des comptables. Aujourd'hui, est-ce qu'au fond, on n'élit pas plus des gestionnaires que des présidents de la République? Et si oui, est-ce qu'on peut comprendre que l'élection d'un gestionnaire, au fond, oui, ça fasse moins, ça excite moins que l'élection d'un chef d'État, d'un homme d'État?
Soyons clairs, on dit souvent qu'on est dans un problème de la démocratie, dans une crise de la représentation. Je pense que c'est assez erroné. En vérité, jamais les citoyens n'ont été aussi bien représentés qu'aujourd'hui. Les politiques sont ultra attentifs au moindre de leur éternuement. On a là, effectivement, quelque chose. Le vrai problème, c'est la question de l'impuissance publique. C'est-à-dire le fait qu'on va élire des gens qui ne sauront pas quoi faire, ni comment le faire, surtout. Parce qu'il y a toute une série de contraintes, des murailles d'impossibilité, des règlements de partout. On le voit au niveau même des communes. Un maire, aujourd'hui, n'a pas de pouvoir. Et il est en plus dans un exposé comme jamais à des conséquences pénales pour son existence.
Enfin, on a vu quand même pendant la crise que le président de la République avait du pouvoir.
Oui, mais un pouvoir, c'est un pouvoir de faire des négociations, de faire des, de prendre. Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. En effet, pendant les crises, tout devient possible. C'est pour ça que Macron n'a cessé, je crois, de le dire. C'était aussi bien les gilets jaunes que la crise Covid. Pour lui, c'est une bénédiction. C'est les choses se débloquent, se décantent. Les priorités s'affichent. Avant, dans les partants calmes, une démocratie n'est pas gouvernable parce qu'il y a des conflits de priorités, parce que la hiérarchisation des objectifs devient complètement incertaine. Par période de crise, c'est le moment où il faut débloquer. Donc, je pense que c'est ça qui constitue effectivement à la fois, je suis tout à fait d'accord, la dimension de fatigue des Français par rapport à la crise, c'est l'analyse me paraissait très juste, et en même temps, l'idée que ces crises peuvent être l'occasion de décompter et de débloquer un certain nombre de situations.
Dans ce contexte,
un mot sur la question de l'incarnation qui me paraît effectivement décisive. Moi, je ne crois pas que nous ayons des candidats gestionnaires. Jean-Luc Mélenchon n'apparaît pas pour les Français comme un gestionnaire, Zemmour non plus, etc. En revanche, que quand vous êtes dans cet état où les thématiques et les visions accrochent peu, où chaque candidat recherche la mesure waouh et ne la trouve pas, parce que...
La fameuse campagne Tefal que vous avez sortie à ce micro il y a deux mois, qui est reprise absolument partout, là. C'est votre fait de gloire, Brice Parturier.
Mais qu'est-ce qui reste du coup pour les Français? Eh bien, effectivement, l'incarnation. Et en termes d'incarnation, ce qui est très frappant quand vous regardez la façon dont ils notent les prétendants, c'est que les notes sont assez médiocres, qu'elles sont assez mauvaises, et qu'on a un affaissement de cette dimension d'incarnation et des événements extérieurs qui font que, et c'est très symptomatique à mes yeux, qu'est-ce qu'on attend maintenant d'un président qui écoute les Français et qu'il sache faire affronter des crises graves. Donc on est plutôt dans ce temps de la crise, dans ce temps de l'écoute, et pas dans le temps de la proposition et de l'incarnation forte du leader.
Dans ce contexte, quelle est la responsabilité, Brice Teinturier, d'Emmanuel Macron, qui tarde à se déclarer? On rappelle que Jacques Chirac avait déclaré sa candidature 69 jours avant le premier tour, Nicolas Sarkozy 67. On est à 46 jours, je vais le formuler de manière cash. Diriez-vous qu'il n'y aura pas de campagne?
Eh bien, la question, en tous les cas, le fait de se poser la question est symptomatique du moment que nous traversons. Je pense qu'il y aura une campagne parce que il va y avoir quand même un système de candidature officiel et il va y avoir des débats derrière. Et l'enjeu majeur, c'est pas est-ce que Emmanuel Macron va être candidat? Les Français savent qu'il va être candidat. C'est est-ce que nous allons avoir une confrontation qui va pouvoir organiser cette controverse et cette délibération avec une thématique centrale qui finira par s'imposer comme étant la thématique de cette élection présidentielle. On peut se dire que les débats sont la dernière chance pour que cette magie habituelle opère,
les débats,
que ça continue à glisser.
Vous avez conscience que les débats, c'est pas sûr. En tout cas, qu'Emmanuel Macron y participe. Hein.
C'est pour ça que je vous faisais part de mon inquiétude sur est-ce que cet espace délibératif commun, cette scène où on regarde les candidats s'affronter autour de controverses, est-ce que nous allons la voir ou pas?
Mais est-ce qu'on peut comprendre le calcul stratégique d'Emmanuel Macron? Au fond, il se dit j'ai pas vraiment de concurrents, j'ai pas de compte à rendre, c'est pas nécessaire que je descende débattre avec eux. N'a-t-il pas cyniquement raison, Pierre-Henri Tavoyau, vous-même, alors peut-être pas parce que vous dites, vous, que c'est, il faut avoir l'humilité de rendre des comptes. Manifestement, il n'est pas pressé de les rendre, les comptes. Est-ce qu'il n'a pas cyniquement raison?
C'est très phase très compliquée, parce que effectivement, il faut rendre des comptes, hein, c'est impératif, et je pense que de ce point de vue-là, la confrontation, alors, pas dans un débat massif, mais individu à individu, candidat à candidat, et à mon avis, pour le premier tour, capital, et la démocratie, si elle ne passe pas par cette étape, ça va être vraiment très problématique. Et de l'autre côté, il faut bien considérer qu'effectivement, il y a une gestion de crise. Il y a une gestion de crise, on sait que une fois que la campagne est lancée véritablement, tout s'arrête. Ça, c'est un drame des démocraties. Tout s'arrête, aucune décision n'est possible. Et donc, et parce que tout devient prêt à la confusion. Donc, il y a une crise, et cette crise ukrainienne bloque un peu la situation. Il y a la crise Covid, c'est aussi bloque la situation. Oui. Et donc, toutes les mesures qui seront prises seront considérées et interprétées comme étant faisant partie de la campagne. C'est déjà un peu le cas, il faut bien le reconnaître. Mais comme étant... Donc, la tâche de responsabilité et la tâche de reddition de comptes sont en train de s'entrechoquer. J'allais dire que c'est une difficulté, à mon avis. Soyons clairs, il me semble que Macron a plutôt envie de se déclarer candidat pour le moment, parce qu'il faut effectivement lancer les choses, et puis il y a toutes ces troupes qu'il va falloir mobiliser, et je pense que, au-delà de du contexte, il est important que la campagne commence, pour la démocratie française, et pour Macron aussi.
Raphaël Liorca.
Il me semble que c'est caractéristique d'une façon de faire vraiment typique du macronisme, qui est celle de la neutralisation. C'est-à-dire que le fait de ne pas se déclarer candidat, et effectivement cyniquement vouloir éviter les débats, c'est quelque chose qu'il a fait pendant tout ce quinquennat. C'est-à-dire qu'au fond, il ne s'est pas simplement déployé sa vision, sa politique, il a empêché les autres de le faire convenablement. Il a évidé les oppositions. Et donc, à force, moi, c'est ça qui m'alerte. Et qu'on se posait la question de la responsabilité d'Emmanuel Macron dans cet état de campagne. À force d'avoir présenté l'extrême droite comme la seule opposition véritable à son logiciel de pensée, bah, au fond, il l'a installé aussi comme la véritable alternative.
On va aller au standard où nous attend Michel. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour.
On vous écoute, Michel.
Voilà, écoutez, j'ai entendu tout ce que vous dites, et puis pas seulement maintenant, mais les autres jours, sur ma radio préférée, la Rosse des radios.
Merci.
Voilà. Je disais donc que si les électeurs sont fatigués et qu'ils trouvent les hommes politiques nuls, c'est que eux-mêmes, les électeurs, sont des nuls. Parce que, enfin, je vais vous dire.
Allez-y.
Pour les élections présidentielles, ils demandent au futur président de régler les problèmes personnels, chose qui n'est pas de ses compétences. Et quand il y a les élections régionales, où c'est vraiment des élections proches, où on peut s'occuper de leurs problèmes, ah ben non, on a parlé sécurité, wokisme, éducation nationale, enfin c'est le bordel, c'est-à-dire les électeurs sont des nuls. Écoute, donc des hommes politiques, ils s'adaptent et ils sont nuls.
Merci Michel pour cette intervention. Pierre-Henri Tavoyeux, dans votre livre « Comment gouverner un peuple roi », vous écrivez « La démocratie que l'on croit connaître est en fait très compliquée. Ce n'est pas un régime pour les nuls », écrivez-vous, « c'est un régime pour les adultes ». Alors, répondez à Michel et puis la parole à Raphaël Yorca.
Non, mais c'est vrai que les élus, on adore les détester. Et vous avez en un sens raison, c'est-à-dire qu'on les voue à une impuissance qu'après on va leur reprocher. Donc il y a effectivement une sorte de double contrainte, c'est-à-dire à la fois on trouve qu'ils sont nuls, mais qu'ils sont démagogiques, qu'ils en font trop, mais qu'ils en font pas assez. Donc nous sommes effectivement, nous autres citoyens, assez largement responsables. Il faut toujours garder en tête que nous avons besoin des élus. Voilà. Moi, personnellement, j'adore la politique, mais je veux pas en faire ma vie, je veux pas passer mes soirs à ça. Donc, la démocratie participative, c'est formidable, mais c'est pas pour moi. Et donc, je suis très content qu'il y ait des élus qui fassent le boulot.
Raphaël Yorca.
Oui, moi, ce qui me frappe, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un rapport aux politiques qui a changé. C'est-à-dire que, on a longtemps dit que la France était une nation plus politisée que les autres. Et au fond, on se rend compte que l'intérêt pour la politique n'est plus un dû. C'est-à-dire qu'il y a un marché de l'attention aujourd'hui, où pendant longtemps la politique était en situation de rentière, aujourd'hui elle est en situation de concurrence. Et en fait, c'est très concret. C'est-à-dire
concurrence
que le soir,
avec quoi?
Bah, très concrètement, le soir, c'est est-ce qu'on se branche sur le débat politique sur France 2 ou est-ce qu'on lance une série Netflix? Donc moi, je préfère plutôt accuser ou pointer du doigt l'offre, c'est-à-dire ceux qui n'arrivent pas à attirer l'attention dans ce marché de l'attention, plutôt que d'accuser les électeurs.
Brice Teinturier, vous reprenez le concept d'apocalypse cognitive de Gérald Bronner, c'est-à-dire notre capacité d'attention qui est bombardée en permanence de sollicitations. Quelle place reste-t-il pour la politique dans cette grande bataille-là?
Mais moi, ça fait depuis longtemps que j'essaye d'attirer l'attention sur le fait qu'il faut arrêter de se raconter des histoires sur une France passionnée par la politique. Il y a un détournement de plus en plus massif des Français de la politique traditionnelle. Il y a évidemment un public qui reste passionné, mais il est minoritaire. En réalité, quand vous regardez les audiences des émissions, quand vous regardez toute une série d'indicateurs, on voit bien que la béance qui est en train de se créer est une béance extrêmement grave et que ça se joue là-dessus. Donc fondamentalement, moi, ce qui me frappe dans cette campagne, et la question de notre auditeur Michel
oui.
Dans ce sens, c'est aussi l'idée de la confusion entre l'offre et la demande, entre des acteurs qui effectivement dans des scrutins locaux traitent de problèmes nationaux et vice-versa, et c'est ça qui participe de cette distance, mais c'est aussi fondamentalement la difficulté des Français à s'intéresser et la difficulté de l'offre politique à capter leur attention. Ce qu'a fait Gérald Bronner est très documenté et très explicatif. Notre attention, elle est prise par d'autres objets cognitifs pour parler.
La violence et le sexe.
Exactement. La pornographie et la violence,
et
ça capte notre attention.
Plus que la politique.
Et les mesures techniques, surtout quand vous avez des candidats qui cherchent la mesure waouh, encore une fois, qui n'existe pas à mon avis, eh bien ces mesures-là, elles n'accrochent pas des Français.
Le débat Mélenchon-Zemmour a été une exception, hein, parce qu'on avait deux visions du monde qui sont explicitées. Et de ce point de vue-là, quand c'est intéressant, si je puis dire, on s'y intéresse.
Aujourd'hui, trop de mesure, pas assez de vision. On est d'accord ce que c'est.
Jean-Baptiste, sur l'appli France Inter, le résume ainsi. Les Français ne s'intéressent pas à cette élection car ils ont le sentiment qu'on sait déjà qu'Emmanuel Macron va être réélu.
Alors ça peut jouer, parce que le pronostic, effectivement, quand vous demandez aux Français, à votre avis, qui va être qualifié pour le second tour et qui va l'emporter, le pronostic, qui n'est pas forcément ce qui va se passer, mais il est très orienté en faveur d'Emmanuel Macron. Et c'est un facteur potentiellement de démobilisation aussi, cette idée que l'élection serait jouée, tout comme la colère mobilise et la fatigue démobilise.
Raphaël Yorca, sur ce point.
C'est plié.
Très compliqué de s'exprimer comme ça. C'est effectivement le.
Je vous enregistre vos scrupules, vos scrupules, vos honneurs.
Mais effectivement, ça contribue à la démobilisation générale.
Pierre-Henri Tavoyau.
Non, c'est pour ça que les confrontations là sont vraiment importantes. C'est qu'on, moi, je me pose comme citoyen ici, un débat Pécresse-Macron, un débat Mélenchon-Macron, un débat Zemmour-Macron. J'y vais, mais avec et le Marine Le Pen-Macron, enfin ça on l'a déjà eu, mais j'y vais avec beaucoup de plaisir. Ça m'intéresse vraiment.
Et je crois que c'est très important d'avoir aussi des débats avec deux candidats et pas le débat à 10 ou voilà le forum où chacun reste en réalité dans son couloir avec quelques minutes pour s'exprimer.
Merci messieurs, merci à tous les trois, Pierre-Henri Tavoyau, Raphaël Yorca, Brice Teinturier, merci aux auditeurs d'Inter également. La revue de presse est à suivre. France Inter.